Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse, clap de fin pour la conférence de l'Union africaine sur la dette publique à Lomé. L'événement placé sous le thème de l'agenda africain de gestion de la dette publique a réuni en dehors des leaders du continent et invités de marque des personnalités et institutions du monde économique et financier. L'objectif est de poser les bases d'une gouvernance responsable et souveraine de la dette en Afrique. Selon les organisateurs, les travaux ont ainsi permis de mener une réflexion concertée sur les réformes nécessaires, de plancher sur des mécanismes innovants de financement. Les assises ont en outre débouché sur l'adoption d'une position africaine commune matérialisée par une déclaration, bien sûr appelée déclaration de Lomé. Nous allons aborder le sujet dans cette émission Club de la Presse. Nous parlerons certainement d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Nous allons bien sûr en parler dans cette émission de ce jeudi 15 mai 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Betoumega est à la mise en onde. Jérôme Dakoucha assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à David Agbouati qui a su nous remplacer déjà pour ces deux jours où nous n'étions pas là. Merci à David Agbouati pour ce travail de confraternité. Et également, nous avons écouté les uns et les autres se prononcer également sur l'événement qui nous est arrivé. Nous vous disons merci aussi pour vos mots de condoléances. Merci à vous. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous savez que vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, vous nous écoutez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix, là nous sommes à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dabao. Club de la Presse, vous le savez également que c'est avec alors mes confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités. Et, ça parle plus alors de décryptage, de l'analyse et du débat sur l'actualité de notre pays et aussi de l'Afrique, notre continent, du monde entier bien sûr. Et c'est avec nos confrères journalistes. Nous sommes au jeudi. Jeudi, ça rime bien avec Ambroise Kondo. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. D'abord, tu me permets, puisque toi-même tu ne peux pas le faire, d'observer une minute de silence en mémoire de ton feu père. Merci beaucoup. Parce que c'est, j'ai rompu la transition, mais c'est comme ça. Parce qu'un jeune frère qui anime une émission de grande écoute et qui est très écouté et qui perd son papa pratiquement la fleur de l'âge, 57 ans. Moi, j'ai été meurtri hier soir. Franchement, tu m'excuses. J'ai été vraiment bousculé parce que je me suis mis à ta place. J'ai dit que le vieux n'a encore rien fait. On ne peut même pas l'appeler vieux. C'est un jeune qui est parti comme ça. Bon, j'ai été vraiment bousculé hier. J'ai eu du mal à le prendre. Mais bon, Dieu, il est grand. Il est toujours miséricordieux. Et il fait toujours bien pour remplacer ce qui est perdu.
Et il semble qu'il nous donne ce que nous pouvons supporter.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu sois très courageux et que tu as prouvé que tu es un homme. Moi, ça me suffit largement. Peut-être c'est les petites sœurs, les petits frères qui sont derrière. Mais Dieu aussi, Dieu comble toujours le vide. Donc, merci parce que tu l'as compris et tu seras béni. Et la famille sera bénie aussi pour ça.
Amen.
Merci. Et donc, je voudrais maintenant dire bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement depuis Lomé jusqu'à dans la diaspora, ceux qui nous suivent depuis Dapan, Sokodé, Mango, Kara, Atapame, Thévier, chez moi, Ami Chintové là-bas, et faire ce petit constat. En venant, j'ai constaté que il y a des usagers qui sont morts. Ils sont certes visiblement usagers, mais on sent que c'est des gens qui sont morts. Morts parce qu'ils sont sur la chaussée, dans leur véhicule, surtout sur leur moto, mais ils ne sont pas vivants. Je crois que le message est passé, et ceux qui en tirent les leçons et les conclusions en feront leur opinion. Parce qu'on ne peut pas avoir dans un pays des gens morts ambulants. Ils sont vivants, de physique, mais ils sont morts. Et juste la cause, peut-être, c'est les soucis venant de la misère, de la pauvreté ambiante que nous vivons dans ce pays. Merci.
Merci, Ambrose, pour vos mots de soutien et aussi de compassion. Merci pour ces mots. Magula Kinviteko, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal. J'avoue que je n'étais pas du tout au courant. J'ai été frappé en plein fouet par l'information. Je m'incline devant la mémoire de ton feu père. Mais comme le philosophe l'a dit, lorsqu'un enfant naît, il est assez déjà mûr pour mourir. C'est pour vous dire tout simplement que ce sont les péripéties de la vie. Un bon chrétien, je sais que Dieu te donnera le courage nécessaire pour supporter cette épreuve. Quand je vois mon cas, orphelin de père et de mère de mon jeune âge, je sais ce que c'est. Mais quand je ne suis pas mort, ça voudra dire que forcément tu pourras supporter également. Donc sois fort, mon frère.
Merci beaucoup.
C'est la vie, et que l'âme de papa repose en paix et que ses œuvres se poursuivent sur terre par l'entremise de toi, de tes frères, pour lui rendre hommage du haut de là où il se trouvera.
Merci beaucoup, ma gloire, pour ces mots. Elom Kossi Tissoubé, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous, et toutes mes condoléances aussi. Je joins ma voix à celle des confrères qui se sont prononcés tout à l'heure pour te présenter mes vives condoléances. J'avoue que j'ai appris la nouvelle ce matin, donc ma gloire aussi. Je ne sais pas si Ambroise était au courant, mais c'est ce matin que j'ai appris la nouvelle. C'est pas facile. Du coup, on va rester en union de prière avec toi, avec toute la famille.
D'accord.
Pour le repos de l'âme de papa.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère, pour ces mots de compassion aussi, de solidarité. Merci. Nous sommes ce matin avec un commandant. Commandant de vous, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à mes compagnons d'aujourd'hui et à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Et puis je joins ma voix à mes prédécesseurs aussi pour vous soutenir dans cet événement. Je suis très malheureux. Enfin, moi je l'apprends en studio. Enfin, c'est un choc. Et puis l'âge qui est donné, 57 ans, je pense que... Il y avait encore beaucoup à vivre, mais comme on le dit souvent, c'est généralement les meilleurs qui partent en premier. Donc que la grâce puisse toucher votre famille, vous et votre famille, et que Dieu puisse nous garder.
Merci beaucoup, mon commandant. Commandant, nous allons parler justement de l'identité biométrique, parce que c'est un processus qui a démarré depuis un temps sur toute l'étendue du territoire national. Et à un moment donné, c'est le Grand Lomé qui accueille maintenant ce mécanisme, c'est-à-dire on aura notre carte biométrique déjà sous peu. Et alors, mon commandant, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le projet de eID?
Je remercie le projet eID Togo, qui est un projet d'identification biométrique, le premier projet inscrit sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et qui a pour objectif principal d'attribuer une identification unique à tous les citoyens et à tous les résidents. Ce projet est né d'un constat tout simple. Dans notre pays, plus de la moitié de la population ne dispose pas de preuve d'identité. Et ces personnes ne peuvent pas prouver leur identité. Mais ce n'est pas un phénomène propre au Togo. Il faut savoir qu'en fin 2022, il y a 850 millions de personnes dans le monde qui ne disposent pas de preuve d'identité, donc dans l'incapacité de prouver qui elles sont réellement. Et dans ce chiffre, 500 millions se retrouvent en Afrique et 196 millions dans l'espace CDAO. Et donc, plusieurs pays sont rentrés dans ce processus d'attribution d'une identité unique, fiable et sécurisée au travers de la biométrie. Et le projet est soutenu par la Banque mondiale à travers le projet d'identification unique pour l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, qui regroupe le Bénin, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Et comme je l'ai dit, c'est d'attribuer un numéro unique à chaque résident, et ce numéro sera porté à vie sur la base de la collecte des données biographiques que nous connaissons généralement et qui consiste nom, prénom, date, lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone. Mais en plus de ces données biographiques, nous avons les données biométriques, donc les empreintes des 10 doigts, une photographie de la face et la capture de l'iris. On a choisi trois modalités biométriques pour s'assurer réellement de l'unicité de la personne et pour assurer vraiment que l'identité qui est donnée est une identité fiable et sécurisée.
Mais, commandant, est-ce que ça veut dire que nous n'aurons plus besoin de notre carte d'identité que nous utilisons ?
Alors, on aura toujours besoin de cette carte d'identité parce que la carte d'identité nationale au Togo est une preuve de citoyenneté. C'est-à-dire que ceux qui ont la carte d'identité nationale ont un certificat de nationalité. Et au regard de la législation actuelle, pour avoir cette carte, il faut l'acte de naissance, le certificat de nationalité, et puis payer 5000 francs. La problématique de l'identité dans le monde est intimement liée à la pauvreté, parce qu'il a été constaté que généralement, c'est les couches les plus pauvres, les couches les plus défavorisées qui manquent de cette preuve d'identité. Et donc, dans le projet EID Togo, l'opportunité est donnée à ceux qui n'ont aucune pièce d'identité, sur la base du témoignage de deux personnes, de pouvoir avoir au moins un document émis par l'administration qui atteste de leur identité, afin de pouvoir bénéficier des services sociaux de base. Parce que il ne s'agit pas de monter un projet, de donner un papier avec un numéro aux personnes, et qu'à la fin de la journée, ce document ne puisse pas être utilisé pour bénéficier des services sociaux de base. Vous vous rappelez, lorsqu'il y avait eu Covid, le programme Novici, qui est le programme d'aide aux personnes vulnérables, impacté par les mesures prises par le gouvernement pour stopper la pandémie, on a dû utiliser en fait la carte d'électeur. Et il y avait eu des billets d'exclusion. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à tout le monde, peu importe sa nationalité, sa race, son ethnie, tout ce que vous voulez, donc c'est inclusif, de pouvoir disposer en fait d'un sésame pour pouvoir bénéficier des services sociaux de base. Je vous donne un exemple au Togo, quand on n'a pas l'acte de naissance, on ne passe pas le CEPD. Parce qu'il y a des enfants qui naissent dans les contrées reculées de notre pays et n'ayant pas l'acte de naissance, ils ne peuvent pas passer le CEPD. Et là, l'État qui investit dans l'éducation de ses enfants, en fait, se prive peut-être d'un futur Einstein ou d'un futur prix Nobel de physique, je ne sais pas. Mais avec le projet EID, le numéro unique qui sera attribué à cet enfant lui permettra de passer en fait les examens le temps qu'on lui fasse la nationalité plus tard. Donc c'est un projet en fait qui renforce l'inclusion socio-économique, qui renforce surtout cette idée que nous vivons en communauté, que la communauté nationale n'oublie pas certaines personnes.
Alors, moi, commandant, comment vous procédez à ce processus sur le terrain ? C'est vrai que vous avez commencé depuis le nord du pays et vous avancez au sud, alors bien sûr, du pays. Et je parlais du Grand Lomé qui sera concerné ou qui est concerné même d'ailleurs à partir de cette semaine. Et concrètement, comment ça se passe ?
Alors très bien, on avait commencé par un pilote pour tester le dispositif, parce que c'est un système qui est mis en place, c'est un système informatique qui est mis en place, donc il faut tester tous les process. On avait commencé dans la région des Savanes entre décembre et janvier, et là nous sommes revenus dans la région, dans le Grand Lomé. Pourquoi ? Parce que le Grand Lomé, c'est pratiquement le quart de la population. Donc l'idée c'est en deux mois de faire la préfecture du Golfe et la préfecture d'Aguenivé. Alors, l'ANID a missionné l'Institut National de Statistiques et d'Études Démographiques qui déploie sur le terrain des opérateurs avec des kits biométriques. Donc, un kit est composé d'un ordinateur, donc matériel informatique, un lecteur d'empreintes, un lecteur d'iris, qui c'est comme des jumelles, et un appareil photo qui est combiné à ce matériel informatique. Donc, ces données sont récupérées, collectées. Donc l'impétrant ou le requérant, il va dans un centre, il remplit une fiche, ainsi qu'une fiche de consentement, parce qu'au regard de la protection des données à caractère personnel, on doit expliquer en fait pourquoi cette opération est conduite et quelle sera la destination de ces données. Et ensuite, ces informations sont saisies dans le système. Lorsque les informations sont saisies dans le système, le numéro unique n'est pas généré immédiatement. on procède par comparaison des données existantes déjà avec celles qui viennent de rentrer. Et lorsque l'unicité de la personne, c'est-à-dire que si le système constate que la nouvelle entrée n'était pas déjà enregistrée, alors le numéro unique d'identification est généré. Et ce numéro, il est envoyé par SMS et par mail. Et dès que la carte est émise, la personne reviendra dans le centre entre 72 et 96 heures pour récupérer la carte. Ce qui est important sur la carte, c'est le numéro. Ce numéro, c'est un numéro à 12 chiffres qui est inintelligible, aléatoire. Pour des raisons de protection des données à caractère personnel, on a fait le choix de ne pas avoir un numéro qui donne en fait des informations sur la personne. Par exemple, si moi je m'enregistre et que mon numéro se termine par 11, celui qui me suit n'aura pas un numéro qui se termine par 12. En fait, le numéro, il est complètement aléatoire. Dans certains pays, par exemple, où on a des systèmes d'identification unique, quand on lit le numéro, on peut savoir dans quel département la personne vit, quelle année la personne est née, si c'est un homme, si c'est une femme. Et nous avons fait le choix de laisser ça complètement aléatoire pour éviter tout ce qui est fraude, usurpation, etc. La carte, donc, sur la face, il y a la photo, nom, prénom, date de naissance et puis le genre. Derrière, il y a un QR code. Ce QR code renferme des informations cryptées qui permettra en fait de faire des authentifications. Pour qu'une administration, par exemple, puisse authentifier via le QR code et s'assurer que, en fait, la personne qui porte la carte est réellement la personne qu'elle prétend être. Ça va permettre, et comme nous sommes dans un processus de digitalisation de certains processus administratifs au Togo, ça va permettre, en fait, avec ce système, de pouvoir accéder aux services publics de manière beaucoup plus aisée. Ça va permettre aussi d'accéder aux services financiers. Vous savez, nos mamans dans les marchés qui tiennent l'économie nationale, certaines n'ont pas de pièce d'identité, donc elles n'ont pas accès au crédit, elles n'ont pas accès aux services bancaires. L'idée, en fait, c'est d'utiliser ce numéro d'identification unique, donc cette carte EID, pour permettre à ces mamans de pouvoir bénéficier, je dirais, de crédit financier pour pouvoir augmenter la surface financière de leur activité, etc., etc.
D'accord. Alors concrètement, quel type alors de Togolais sera concerné par ceci? Est-ce que c'est tout le monde qui se trouve sur le sol togolais, ou bien est-ce qu'il y a justement des critères sur lesquels vous choisissez justement ces gens-là qui seront enregistrés?
Conformément aux dispositions de la loi portant l'identification des personnes physiques, loi votée en 2020, septembre 2020 et modifiée en 2022, l'enregistrement est ouvert à tout le monde, y compris les personnes de nationalité étrangère vivant sur le territoire national. C'est une identification fondationnelle, c'est-à-dire que c'est la base. Tout le monde doit pouvoir disposer d'un numéro d'identification dans le pays. Et au-dessus de ce socle fondationnel, en fait, il y aura des identifications fonctionnelles. Et donc, l'administration demandera, dans un avenir proche, en fait, le NIU, le numéro d'identification unique, pour pouvoir comparer, en fait, les informations dans les différentes bases de données du pays pour mieux servir la personne. Je vous donne un exemple pratique. Quand vous allez dans une administration, vous remplissez toujours une fiche, nom, prénom, date, lieu de naissance, etc., etc. Donc, si le matin à 8h, vous allez dans le premier service administratif, vous allez remplir une fiche comme ça. À 10h, vous allez dans un autre service, c'est toujours l'État, mais vous allez remplir une autre fiche. En fait, à terme, ce que l'on veut faire, c'est que j'arrive dans une administration, en fait, je donne le NIU. Donc, l'agent d'administration qui est au guichet, qui doit me servir, en fait, il tape le NIU dans le système d'information de l'administration. Et les informations dont cet agent a besoin pour me servir, en fait, c'est téléchargé directement. Et moi, j'ai plus besoin de faire d'écrire tout le temps. C'est une vision de modernisation de l'administration pour simplifier les procédures, pour renforcer la célérité, mais aussi pour permettre, et comme je l'ai dit précédemment, aux couches les plus défavorisées, les plus vulnérables, en fait, de pouvoir s'intégrer et de pouvoir bénéficier des services offerts par l'administration.
Alors, mon commandant, qu'est-ce qui va changer concrètement dans la vie du citoyen après cet enregistrement?
Bon, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous savez, avant, pour faire le casier judiciaire, il fallait se déplacer, je crois, dans le lieu de naissance. Aujourd'hui, on le fait en ligne, sur la plateforme service public. Avec le numéro d'identification unique, comme je l'ai dit, il va y avoir une célérité dans la gestion du service public, faciliter les procédures administratives, permettre à ceux et celles qui ne disposaient pas de preuve d'identité de pouvoir faire des formalités, de pouvoir formaliser leur activité économique, un enfant qui n'a pas passé le CPD, qui n'a pas de pièce d'identité, de preuve d'identité, et qui doit faire un apprentissage, à la fin de l'apprentissage, il n'a pas le certificat de fin d'apprentissage, parce qu'on demande une preuve d'identité. Et lorsque cet enfant qui devient adulte n'a pas de certificat de fin d'apprentissage, il n'a aucun outil pour témoigner en fait de son expertise. Et lorsque je n'ai aucun outil, document pour témoigner de mon expertise, je ne pourrais pas avoir un emploi décent. Donc je ne pourrais pas avoir un contrat en bonne et due forme, je ne pourrais pas cotiser à la sécurité sociale pour les besoins de prévoyance, besoins de retraite. Et en fait, quand on analyse tout ça, parce que je n'ai pas une preuve d'identité dès le départ, que je suis dans un cercle vicieux, un tunnel. Et donc, comme moi-même, je n'ai pas une pièce d'identité, mes enfants que je vais mettre au monde peuvent se retrouver dans la situation et on se retrouve dans un cycle de pauvreté chronique qui va se transmettre de génération en génération. Donc, l'idée ici, c'est de partir sur un socle fondamental, donner à chacun l'opportunité de prouver qui il est et ensuite de pouvoir construire sur ce système d'autres services pour faciliter... je dirais la vie socio-économique.
Moi, commandant, c'est vrai que j'en parlais avec un Béninois tout récemment qui m'a dit que oui, pour ce qui concerne alors l'identité biométrique, la carte a été déjà faite chez eux depuis. Et également au Nigeria, c'est un processus qui est presque achevé. Quand le Togo le fait ce moment, est-ce que nous n'avons pas accusé de retard?
Je vous remercie pour la question. Bon, je ne vais pas, pour des raisons d'obligation, de devoir de réserve, parler de certains pays. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent, mais ça reste à vérifier. Le Bénin est dans le programme OURI, le programme régional. Vous savez, le Togo a fait le choix, pour des raisons de souveraineté numérique, de choisir des solutions sur lesquelles nous avons la main. Okay. Vous savez, dans le monde informatique, il y a les solutions propriétaires et les solutions open source. Les solutions open source sont des solutions où vous récupérez le code et vous-même vous l'adaptez à votre besoin. Et sur ça, vous avez la main, vous pouvez faire des développements, de l'innovation à l'issue. Et donc le Togo qui est rentré dans le programme OURI en phase 2, aujourd'hui fait la course en tête en matière de mise en place du système. C'est des appels d'offres internationaux, il faut choisir la bonne solution, il faut faire beaucoup d'études de faisabilité, s'assurer que l'output soit conforme à la vision du pays. Après, il y a un autre choix, celui d'acheter une solution sur étagère. Il y a des pays après qui se sont plaints qu'ils ont eu des solutions avec des entreprises et que voilà. Nous, on a fait le choix de construire from scratch, donc dès le départ, de s'assurer que ce que nous faisons est en adéquation avec notre vision de digitalisation de la vie nationale. Voilà. Donc, peut-être certains diront que nous avançons lentement, mais vaut mieux avancer lentement que sûrement. Et comme le disent certains, quand on est pressé, on va lentement.
Quand on est pressé, on va lentement. Oui, mais moi, je suis intéressé par la question de protection des données et aussi de la sécurisation de ces données. En quoi cette identité biométrique ou la carte que nous aurons nous permettra d'avoir une sécurité de nos données?
Alors, très bien. Il faut savoir que le choix même du système d'information doit répondre à certains critères. La sécurité des systèmes d'information et la sécurité des données que nous collectons. Alors, sur la sécurité des systèmes d'information, le Togo a un cadre juridique en matière de cybersécurité assez développé. Nous avons l'Agence nationale de la cybersécurité qui a un bras opérationnel qui s'appelle Cyber Défense Africa. Et ces entités ont pour mission de sécuriser, en fait, l'espace numérique togolais. Donc, l'Agence nationale d'identification est un organisme de service essentiel. Un organisme de service essentiel est une entité publique ou privée dont l'arrêt des services est susceptible de porter un coup au bon fonctionnement des autres institutions. Donc, de ce fait, nous avons des protocoles de sécurité des systèmes d'information assez élevés où nous sommes soumis à des audits réguliers de nos systèmes d'information, que ce soit l'accès même aux locaux, accès aux équipements. Ensuite, lorsque les données sont collectées sur nos appareils, en fait, dès qu'ils rentrent dans le système, ces données sont cryptées de bout en bout. On utilise un réseau sécurisé pour la transmission des données. Les données sont stockées sur le territoire national. Le Togo a fait le choix de stocker les données nationale de l'identification biométrique au Togo. Donc, il y a le Lomé Data Center. Donc, il y a une série de mesures pratiques qui ont été prises et qui sont toujours en cours de mise en œuvre pour permettre en fait que l'ANID, les données qui sont au niveau de l'ANID, ne puissent pas être visibles ou utilisées à d'autres fins par d'autres personnes. Ensuite, nous sommes soumis aussi à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, moi, je collecte les données, mais j'en fais pas ce que je veux. Donc nous avons tout un protocole pour l'accès à ces données, qui a accédé, on le sait, etc., etc. Et nous sommes soumis aussi aux audits de l'instance de protection des données à caractère personnel qui a actuellement commencé ses activités pour créer un climat de confiance. Pour que, à la fin de la journée, que ça ne soit pas une brèche pour le pays.
Alors, mon commandant, nous allons clôturer ou mettre fin à cet entretien, mais je voudrais savoir, si, en tant que citoyen, si je dois suivre ce processus, quelle est la démarche à suivre? Et si peut-être je dois me lever aujourd'hui à l'heure de ma maison pour faire cet enregistrement, qu'est-ce que je dois faire?
Alors très bien, le protocole d'enregistrement, là, il est simple. Hein. Bon nombre de personnes le font déjà quand on doit aller faire les cartes électorales. Généralement, c'est dans les écoles proches, enfin dans nos communes. Et donc comme nous sommes dans la commune, la préfecture du Golfe, donc les écoles privées et publiques, les opérateurs sont déployés sur zone. Vous y allez. Il y a une fiche à remplir, donc nom, prénom, les informations biographiques. Et ensuite, vous vous retrouvez auprès de l'opérateur. Ceux qui ont déjà une pièce d'identité, vous vous y rendez avec la pièce d'identité. Parce qu'on prend une photo de la pièce d'identité que vous avez amenée. Donc, ça peut être la carte nationale d'identité pour ceux qui en ont, le passeport, l'acte de naissance, le certificat de nationalité, le permis de conduire, la carte INAM. Une pièce sur laquelle on peut attester que c'est vous, en fait, parce qu'il y a la photo. Mais ceux qui n'ont aucune pièce d'identité, ils peuvent aller avec deux témoins qui doivent être déjà enregistrés dans le système. Le but, c'est d'avoir quand même un certain climat de confiance et éviter tout ce qui est usurpation d'identité. Pour faciliter le processus, s'il y a on peut faire un pré-enregistrement. Là, comme ça, quand on se rend dans le centre, on se fait collecter juste les données biométriques. Et donc, la plateforme de pré-enregistrement, on peut le faire sur servicepublic.gouv.tg. Donc c'est la plateforme des services digitalisés de l'administration publique, donc servicepublic.gouv.tg. Donc il y a un onglet identification biométrique ou soit préinscription.anid.gouv.tg. Et là on donne les données biographiques et puis ensuite on a un code et c'est ce code qui est envoyé par SMS ou par mail si on a donné son adresse mail qu'on montre à l'opérateur. Lui récupère le code. Il saisit dans le système et le système en fait récupère les informations qui avaient été préalablement chargées dans le système et on fait une vérification et puis à l'issue on passe à la collecte de la biométrie, les empreintes des 10 doigts, l'iris et une photographie de la face.
Ouais. Moi, comment dans votre mot de la fin?
Mon mot de fin, c'est je pense que ce système va moderniser le pays. En fait, c'est pour nous qui avons des preuves d'identité, nous ne mesurons pas les difficultés que peuvent avoir les gens qui n'ont aucune pièce. Si on fait l'exercice de quelqu'un qui est dans le Togo et qui n'a pas de pièce d'identité, normalement il ne peut pas avoir une carte SIM. Donc il est obligé d'utiliser la carte SIM de quelqu'un. Enfin, quelqu'un a acheté la carte SIM, s'est identifié, et que ce quelqu'un qui s'est identifié est peut-être dans un réseau de braqueurs ou est un criminel. Et donc, s'il y a un crime ou un délit qui est commis, les services vont faire la recherche, ils vont faire le lien entre le nom qui est sur la carte SIM, qui n'est pas moi, mais comme c'est moi qui l'utilise, je serai interpellé. Donc le but ici, je pense que ça va renforcer la confiance dans la République, faciliter la lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité. Et pour les personnes pauvres et vulnérables, qui ont toute leur place dans la République, c'est la vision du gouvernement, c'est de renforcer quand même l'inclusion sociale, c'est de pouvoir leur donner quand même quelque chose. Pour pouvoir accéder aux services sociaux de base, que ce soit l'assurance maladie universelle. Vous ne pouvez pas aider des gens si vous ne connaissez pas exactement qui ils sont. Vous ne pouvez pas, c'est comme un père de famille qui veut donner de l'argent à ses enfants, il les appelle par leur prénom. Et nous vivons dans un monde où il y a l'homonymie. Et donc l'attribution d'un numéro unique, en fait, est la clé pour pouvoir discerner, pour pouvoir faire la différence entre les gens, etc. Parce que des Kodiokoku, vous en rencontrez partout. Mais un numéro, il est unique. Et je profite de l'occasion parce qu'il y a des polémiques qui naissent, que c'est la fin des temps. Et dans certains livres, ça, on a dit, à la fin des temps, il y aura un numéro qui sera attribué. Je terminerai sur, sur ces mots. Même au paradis, on donne un numéro d'arrivée. Et j'espère que votre papa est aujourd'hui au paradis et il veille sur nous. Je vous remercie.
Merci beaucoup, commandant Devaux. C'est l'été. Je rappelle que vous êtes le directeur général de ANID, l'Agence nationale d'identification. Merci d'être passé dans cette émission.
Moi, j'ai une question, Pascal.
Vous avez une question?
Oui, j'ai une question.
Mais on va y aller rapidement.
C'est-à-dire qu'il a dit, au-delà de ces rumeurs, il y a d'autres rumeurs aussi. D'abord, je voudrais savoir quelle est la tranche d'âge qui est concernée par cette identification. Les enfants de 5 ans jusqu'à combien? Ou c'est les enfants qui ont l'âge de la majorité? Maintenant, la seconde, c'est les supputations et les interprétations vont droit en disant que c'est encore une manière, surtout dans les dictatures, contrairement aux démocraties, identifier la personne. Ailleurs, on parle d'identification faciale. Tu fais quelque chose, on te retrouve. C'est des politiciens, on cherche à dénicher, on cherche à débusquer. On les retrouve en même temps avec le numéro, on sait là où tu es, on te prend. Ça aussi, les gens ont peur de ça.
D'accord. Oui, on va laisser le commandant répondre à ces questions, ces deux d'abord, et je vous donnerai la parole, mon commandant.
Ok, je remercie, et je pense que c'est le but du jeu aussi, c'est de construire les idées préconçues. La première question, la loi autorise en fait l'enregistrement de zéro à... Voilà. Pour les enfants de moins de 5 ans, on ne fait pas de collecte de la biométrie parce que conformément aux données scientifiques aujourd'hui, la biométrie se stabilise après 5 ans. Mais l'enfant qui vient avec son parent, en fait, il va être enregistré nom, prénom, date, lieu de naissance, etc. Mais sera lié à son parent ou à son tuteur. Donc voilà. Maintenant, quand l'enfant va commencer l'école, l'ANID aura pour mission à chaque rentrée scolaire pour les enfants qui rentrent dans le système scolaire à 6 ans. On aura l'obligation de se déployer dans les écoles pour collecter la biométrie et leur attribuer, en fait, lier maintenant leur biométrie au numéro d'identification unique qu'ils avaient eu il y a quelques années de cela, quand la biométrie n'avait pas été collectée. Alors, sur la question de la recours faciale et tout, le projet est financé par la Banque mondiale, okay, dans tous les pays. Le projet est financé par la Banque mondiale et les protocoles, que ce soit l'accord de financement, etc., ne nous autorise pas en fait à utiliser le système pour ce qui est ce que l'on pense. Le système, comme c'est mis en œuvre dans l'espace ouest-africain, les pays se sont engagés à en fait utiliser le système pour des besoins de modernisation de l'administration publique, de modernisation de l'état civil, parce que le gros sujet que nous avons, c'est le sujet de l'état civil. Parce que dans nos pays... les enfants naissent, ils ne sont pas déclarés. On a des décès, on ne fait pas d'acte de décès. Donc le but, en fait, c'est d'utiliser ce système pour moderniser tout ce qui est politique publique en matière sociale. Maintenant, je ne pense pas que les gouvernants ici sont dans cette optique. Nous, on a reçu une mission et nous essayons de la maintenir, de conduire cette mission à bien. Et nous comptons sur les acteurs des médias, en fait, pour rassurer, mais aussi pour nous interpeller, parce que c'est de ça il s'agit. Il y a des choses qui peuvent se passer, nous, on n'est pas au courant, pour nous interpeller sur le terrain, pour nous dire, ben, il y a ça, est-ce que vous pouvez expliquer, etc.
D'accord. Et l'homme, une question.
Est-ce qu'avec cette carte, on peut aller à la banque retirer des sous?
Alors, très bien.
Parce que c'est ce qui l'intéresse, bien sûr.
Ouais, c'est... Non, c'est pas...
Non, je vous comprends.
En fait, le...
C'est simple.
Ouais, le... vous savez, dans l'espace, je ne suis pas économiste, mais dans l'espace UEMOA, les taux d'intérêt sont élevés parce qu'il y a un risque qui plane sur les institutions financières. C'est-à-dire que c'est plus facile de disparaître avec un crédit dans nos contrées qu'ailleurs. Okay? Et donc, on fait peser ce risque-là sur des taux d'intérêt élevés. Le système que nous mettons en place permettra aux banques, aux institutions financières, en fait, de faire de l'authentification. Et avec cette authentification, avec on appelle le BIC, le Bureau d'information du crédit, en fait, de pouvoir, à travers l'interopérabilité des bases de données, de déterminer la solvabilité d'une personne, de savoir si la personne est sortie de telle zone pour aller dans tel pays et tout. Et comme c'est un projet régional, donc on va pouvoir avoir une traçabilité des opérations financières et tout. Le but, comme je le dis, c'est de renforcer l'inclusion socio-économique et l'inclusion financière. Donc cette carte EID permettra en fait à ceux qui n'ont pas de pièce d'identité de pouvoir être bancarisés, parce qu'en Afrique, on a un problème de bancarisation, et quand on fait des études, on se rend compte que nos pays ne sont pas, les gens ne sont pas bancarisés parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils n'ont pas de preuve d'identité. Donc avec ça, je renforce en fait j'augmente la surface de personnes pouvant bénéficier du service financier. Maintenant, si j'ai une pièce d'identité et que je rentre dans une banque, je vais dans une banque. Si j'ai oublié ma pièce d'identité, on va m'authentifier par mon empreinte, à condition que la banque puisse avoir un dispositif de lecture biométrique. Donc, je pose mon doigt. La banque va faire une requête d'authentification sur la NID et nous, on va confirmer que cette personne est réellement la personne qu'elle prétend être et la banque va pouvoir... voilà. Tout ce que je dis là, c'est pas nouveau. Il y a certains pays qui sont déjà dedans. Il y a des problèmes qu'on va régler au fur et à mesure, des problèmes d'infrastructure, de connectivité. Je pense qu'il y a déjà des projets dans le pays qui sont dans cet élan.
D'accord. Oui, Magla Kenvitoko, vous avez une question aussi?
Oui, mon commandant, tout à l'heure, vous avez parlé d'interpellation. Moi, je voudrais vous interpeller. Vous savez, en début du processus de l'opération, on a eu vent de plusieurs situations contraignantes sur le terrain. Vos agents, beaucoup de vos agents se sont plaints qui n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, pour mener à bien l'opération, ce qui fait que plusieurs citoyens ne sont pas fait enregistrer dans le nord du pays. D'abord, je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous êtes au courant, du moment où l'opération est appuyée par la Banque mondiale, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui a pu se passer véritablement puisqu'il parle également des promesses non tenues en termes d'argent, de rémunération et tout. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que aujourd'hui vous rassurez que à ce jour, toutes les conditions sont réunies pour éviter ce qui s'est passé par le passé, enfin, au début de l'opération?
Ok, je vous remercie. Là, vous touchez du doigt les péripéties de la région des savanes. Les chiffres que nous avons par rapport à l'enregistrement, nous sommes à 75 et 80% de personnes enregistrées dans la région des savanes. Nous n'avons pas fait deux préfectures. Si nous prenons les chiffres du RGPH, okay. Il faut savoir que on capture les empreintes. Si la qualité des empreintes ne sont pas bonnes, le système va pas les prendre automatiquement. Parce que si nous prenons des empreintes de mauvaise qualité, on ne pourra pas faire de l'authentification. Il y a des pays aujourd'hui qui ont ce problème. C'est-à-dire que lors de la collecte, la collecte n'a pas été faite de manière optimale. Et il y a plusieurs manières de prendre des empreintes. On peut prendre des photos des empreintes, mais ce n'est pas les empreintes. On prend des photos. Et donc, dans la région des Savanes, il y avait eu des problèmes, ce genre de problèmes, notamment sur les populations rurales. Okay? Ce qui nous a amené à refaire des études, du calibrage, en fait, pour pouvoir collecter des données de qualité. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas une course de vitesse. En fait, c'est de construire un système fiable, sécurisé, qui va pouvoir être utilisé par les autres entités de la nation. Et donc, il faut faire un travail de qualité. Donc, ce qui a fait que plusieurs personnes sont déplacées, et au regard, par exemple, les agriculteurs, des gens qui utilisent, par exemple, du ciment, c'est corrosif et tout ça. Donc, on avait eu ce genre de problème qui aujourd'hui a été résolu. En tout cas, c'est un système informatique. Au fur et à mesure qu'on découvrira des problèmes, on va essayer de faire pause et puis de les corriger. Ensuite, sur la question de la grogne, nous travaillons en partenariat avec l'Institut National de Statistique, de la Statistique et d'Études Démographiques, l'INSED, qui a déployé le personnel. Donc, aujourd'hui, les problèmes sont aplanés et je pense que c'est au regard de cela que l'opération a été relancée sur Lomé. C'est un déploiement logistique lourd. La région des savanes, il y a l'élongation des voies de communication, il y a plusieurs problématiques logistiques. On a essayé de faire au mieux, mais en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer, en fait, on va optimiser les processus. Je tiens à préciser que là, nous sommes dans la phase de campagne d'enregistrement de masse. À l'issue de cette campagne d'enregistrement de masse qui va concerner les différentes régions du pays, on va basculer en enregistrement continu où tous les kits, en fait, seront redéployés sur l'ensemble du territoire national dans toutes les administrations publiques recevant du public, en fait, pour favoriser la mise à jour de données. Ceux qui n'ont pas pu faire, ils pourront refaire. Ensuite, la mission de la NID, c'est d'identifier. Il y aura des missions ad hoc en fonction des besoins. On pourra redéployer, etc. Dans tous les cas, à l'horizon 2026, et conformément à la fin du projet Banque mondiale, 100% des Togolais pourront bénéficier de ce sésame.
Vivement, mon commandant. Oui, Jean Legrand pour les Rélis, bonjour.
Bonjour Pascal.
Voilà, vous avez aussi une question.
J'ai une question, oui. Mes deux prédécesseurs ont pris un pan de mes questions, notamment au niveau des péripéties dans la région des savanes. Plusieurs ont argué le fait de n'avoir pas véritablement eu l'information à temps, ce qui fait que beaucoup n'ont pas pu s'enregistrer. Est-ce que des dispositions ont été prises pour qu'au niveau de la préfecture du Golfe, on n'ait plus lieu à cette situation? et que au niveau de la communication vraiment ça puisse cartonner. Deuxième point, sur la question de l'accès aux services financiers, le confrère a posé la question tout à l'heure. Il se fait que j'ai une connaissance dans les savanes qui a eu la carte mais a été dans une banque et n'a pas pu être servie avec la carte. Du coup, on ne sait pas est-ce qu'il y a un délai avant que l'utilisation ne puisse être optimale ou qu'est-ce qu'il en est en fait.
Très bien, je vous remercie. Je vais commencer par la deuxième question. Les documents utilisés pour les opérations financières dans l'espace UEMOA sont validés par la BCAO. Et comme c'est un programme régional dans lequel il y a plusieurs pays, des dispositions sont en train d'être prises au niveau du Conseil des ministres des Finances et tout ça, pour que le justificatif d'identité qui est émis puisse être utilisé. Au Bénin, comme ils étaient en avance, puisque eux, ils utilisent un système complètement déjà en place, on utilise en fait, ils appellent ça le NPI pour pouvoir faire des opérations bancaires. Ce processus va être lancé ici pour que, voilà, pour que les banques puissent être intégrées au système, il faut qu'ils puissent avoir un dispositif d'authentification. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons des jeunes qui peuvent fabriquer la carte avec le même design et tout. Mais c'est le dispositif d'authentification, en fait, qui va rassurer la banque. Et ce dispositif d'authentification, c'est la banque qui va interroger la base de données de la NID pour s'assurer qu'en fait, cette personne est réellement la personne qu'elle prétend être. Aujourd'hui, ce dispositif, entre les banques et nous, on est en cours de discussion en interne pour que ça puisse se faire. Sur la problématique de communication, c'est pour ça que je suis là. Il faut communiquer, il faut expliquer. La problématique que nous avons eue dans la région des Savanes, c'est que c'était en décembre et janvier. Il y avait les périodes de fêtes. Les gens n'étaient pas là, les gens sont revenus. Voilà. Dans tous les cas, personne ne sera laissé pour compte, en fait. Si, dans la première phase, on ne balaye pas tout le monde, les kits seront redéployés. Et puis, au fur et à mesure, avec les communes, les préfectures, les gouvernorats, on essaiera de faire un maillage territorial assez conséquent pour avoir le maximum.
Bon, commandant, merci d'être passé dans cette émission. C'est vrai que nous avons voulu faire juste un entretien de 15 minutes, mais au regard même d'ailleurs de l'importance du sujet, chacun apporte même d'ailleurs des questions et des questions que vous répondez très bien. J'ai reçu même d'ailleurs beaucoup de questions également ici, mais je vous prierai de rester avec nous pour que déjà après midi, quand midi va sonner, nous allons donner l'opportunité à nos auditeurs. Ils auront aussi beaucoup de questions à vous poser. Et donc, je vous prie alors de rester avec nous pour ces quelques temps que nous aurons à faire. Merci d'être, là. Voilà, cher confrère, nous allons aborder les sujets maintenant liés à l'actualité. Sujets liés à l'actualité, on le sait très bien, depuis lundi, il y a la conférence sur la conférence de l'Union africaine sur la dette publique qui se tient à Lomé. La conférence a été clôturée hier et il y a une déclaration de Lomé même d'ailleurs qui a été prise et beaucoup de journaux sont revenus sur le sujet. Il y a le journal Le Dialogue. Le journal Le Dialogue écrit « Conférence de l'Union africaine à Lomé, les jalons d'une meilleure gestion de la dette publique ». Et beaucoup d'autres journaux également sont revenus sur le sujet. Abbas, vous avez suivi de bout en bout cette information, c'est-à-dire la rencontre de Lomé sur la dette publique. Et pour vous, est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui qu'on parle plus alors de cette dette publique dans nos pays?
Oui, je crois que c'est une nécessité, d'autant plus que la dette est un poids qui est actuellement sur la tête des pays, des gouvernements. Et il faut aussi faire remarquer qu'il y a la dette, il y a aussi le service de la dette. Parce que on peut s'endetter. Et je crois que dans les normes de la microfinance, ou pas microfinance, de la microéconomie, de la macro, il est relevé que l'on peut s'endetter pour pouvoir investir dans des infrastructures dans tout pays. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. La France, on parle de 3 000 milliards de dollars, je crois. Et donc, le Togo qui risque de passer le seuil de 70% du PIB de sa dette, ce qui est déjà très élevé. Et donc, on considère que la dette est une bonne chose. Sauf que nos gouvernants ici en Afrique, surtout dans les dictatures, n'utilisent pas bien la dette. Des fois, c'est des questions de détournement de but de ces dettes. Des fois, c'est des questions de corruption qui minent ces dettes-là, au point que on s'endette, nous on paie, nos enfants viendront payer, nos arrière-enfants viendront payer, alors qu'il n'y a aucun investissement. Vous allez voir que depuis que le Togo a commencé par s'endetter, jusqu'à ce qu'on soit éligible au PPTE, comment vous l'appelez, pays pauvre, très endetté. Accepter que je sois très pauvre et endetté là, c'est une malédiction d'abord. Et ensuite, que l'on vienne maintenant nous dire que cette dette-là soit effacée. Thomas Sankara l'avait dit dans l'un de ses discours, que c'est un poids, c'est une façon de nous maintenir au biberon et nous piller nos ressources, nos richesses et naturelles, minières. Maintenant, le discours du président, c'est un bon discours, il a fait. Ce que le paradoxe, c'est que lui-même, chez lui ici, les choses ne sont pas utilisées à bon escient pour que la dette serve réellement aux investissements. On n'a pas de chemin de fer. Au Maroc, en Côte d'Ivoire, c'est la TGV, hein, en Côte d'Ivoire ici.
Sénégal.
Sénégal, c'est TGV. Et il y a des membres gouvernés dans 8 ans, Fonds National gouverne 20 ans. Ça fait combien? Près de 60 ans. On n'a pas de chemin de fer. Autoroute, on n'en a pas au Togo. Échangeur. Une ministre a dit que le Togo n'a pas besoin d'échangeurs. Et que la rue de Ségué est une rue de frontière. Que ça doit être étroit. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Quelle est cette vision-là? Quand on veut gouverner un État, on est dans une vision. Dans 20 ans, voici ce que je ferai. Dans 50 ans, voici ce que le Togo deviendra. Mais ils voyagent. Donc, revenons sur la question de la dette de façon spécifique. Oui, je crois que c'est une question, c'est une problématique très discutable. Hein. Mais tout en sachant qu'il y a, j'ai bien de le dire, il y a la dette et le service de la dette. Parce que la dette est contractée auprès des partenaires bilatéraux d'abord. Le Togo peut contracter une dette auprès de la Banque mondiale du FMI. Auprès du FMI, c'est des partenariats bilatéraux. Maintenant, il y a des partenariats multilatéraux. La BIDC, la Banque islamique, la BAD et l'FMI, on contracte en même temps. Le mal, c'est que quand vous payez la dette pour celui avec qui vous êtes bilatéral, vous n'arrivez pas à consommer, à payer cette dette. Vous allez encore parce que votre pays doit évoluer. Au même moment, vous ne faites que prendre les impôts, les taxes des populations pour payer les dettes. Jusqu'à quand vous allez investir pour qu'on ait des infrastructures? On n'en a pas. Et donc la dette est mal utilisée chez nous au Togo. La dette est mal orientée chez nous. Elle est détournée pour d'autres buts. Peut-être dans les poches de d'autres personnes. Peut-être pour des intérêts inavoués, des intérêts bizarres qu'on ne connaît pas. Et donc la dette ne nous sert à rien. D'accord. Et on va payer, nos enfants vont payer, nos arrière-enfants vont payer.
D'accord.
C'est pas normal.
Ok, ce n'est pas normal, c'est votre avis. Vous titrez sur le sujet hein, ce matin, Lomé, déclaration de la conférence de l'UEA sur la dette africaine, les mesures pour résoudre la crise de la dette. Est-ce que ça veut dire que la rencontre de Lomé a servi à quelque chose?
Bon, les mesures, tout le monde les connaît déjà avec le document qui a été sorti hier. Le problème de la dette même remonte déjà au niveau de l'Union africaine. Vous savez que l'Union africaine... qui envoie des émissaires à Lomé, le budget de l'Union africaine est calqué sur le budget d'une institution européenne. Donc, avec ça, vous voulez qu'on parle de la dette comment? Écoutez, mais moi, j'ai l'impression que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous comprenez? Vous, même sur le continent, vous avez une association ou une organisation qui dépend exclusivement du budget d'une autre institution sur le point de la dette. Donc, ça soit pour discuter de la dette, moi, je crois quand même que c'est se moquer de nous-mêmes, quoi. Donc, à partir du moment où...
On parle de la viabilité de cette dette publique. Oui, c'est-à-dire, on veut faire les discussions sont menées autour de la viabilité. Alors,
oui, je ne refuse pas, mais c'est de la poudre de perlimpinpin qu'on nous vend. C'est-à-dire que ici, l'institution même qui a lancé le débat, l'institution même travaille sur le budget d'une autre institution. Vous voulez qu'on parle de quoi?
C'est-à-dire, l'institution est endettée aussi, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, c'est-à-dire, mais les membres de l'institution, est-ce que les membres de l'Union africaine ne peuvent pas cotiser pour supporter l'institution? Est-ce que 54 pays africains ne peuvent pas cotiser chaque année pour faire le budget de l'institution? Même la CEDEAO aujourd'hui est plus indépendante financièrement que l'UEA. Vous trouvez ça normal? Le siège de l'UEA est construit par quel pays? Vous connaissez le pays? Mais tout ça, c'est quoi? C'est, on va me dire que l'Afrique ne peut pas bâtir ses propres, via ses propres ressources, son continent, son institution et tout. Bon, maintenant, sachant, on dit, on parle de la dette. Voilà l'institution qui est construite par une puissance occidentale. Le budget qui fonctionne, le budget de l'UEA qui fonctionne sur le budget d'une autre institution. D'accord? Les 54 États ne peuvent pas cotiser pour pouvoir se supporter eux-mêmes. Même la CEDEAO y arrive quand même à cotiser au niveau des pays. Même s'il y a de profondes dissensions sur le plan économique, ils savent que bon, ok, allons-y quoi. On supporte le Parlement, il y a des frais ceci, il y a des frais cela. Même si bon, il y a des appuis extérieurs, on ne refuse pas. Mais lui a exclusivement l'impression que c'est une institution aujourd'hui qui ne sert plus à rien.
d'accord, qui ne sert plus à rien, et sur un modèle de fonctionnement. Aujourd'hui, regardez combien de fois on parle de l'Union africaine dans les débats africains. Mais on parle toujours de la CEDEAO. On parle toujours de l'UEMOA. Mais c'est l'UEA qui est l'organe suprême du continent. Donc, quand on dit maintenant sur le fond du débat, on dit dette, soutenabilité de l'année. En fait, c'est des thèmes que beaucoup ne comprennent pas en réalité. Et ça rentre dans le budget de l'État. Quand on prend le tableau des opérations financières, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les thèmes techniques. Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est que dans la déclaration d'hier, ils ont parlé de restructuration de la dette. Ils ont parlé des alternatives. On a parlé de la titrisation de créances, qu'on appelle les DTS. On a parlé également de quoi des partenariats publics-privés qu'il faut renforcer. Mais la plupart des partenariats publics-privés dans les États africains, il y a beaucoup de choses à revoir. Vous connaissez le tribunal du commerce au Togo ? Ils publient tout le temps des décisions rendues en ligne, d'accord ? En ligne, vous vous connectez à leur plateforme, vous allez voir la plupart des décisions qui relèvent de la relation des partenariats publics-privés. Vous allez tomber à la renverse. Ça veut dire que les gens ne lisent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de spécialistes pour relire les contrats PPP qu'on mène. Et donc, c'est la plupart de ces contrats qui nous mènent en bateau. Où est-ce qu'il se passe à la société ? Contour global, c'est un contrat PPP. On paye 14,4 milliards par an. Qu'on consomme ou pas l'énergie électrique, en termes de HFO, en termes de gasoil, on parle de façon concrète, c'est des choses concrètes. Et ça, par exemple, c'est un piège. On est obligé de s'endetter pour supporter. Qui va payer la dette, là? Donc, il y a beaucoup de paramètres. Donc, on parle des DTS, on parle des titulations de créances, on parle de partenariat public-privé. Oui, c'est bien vrai. On parle d'autres choses. Ça, c'est des solutions pour qu'on puisse, justement, aménager la dette. Mais en réalité, c'est des solutions qui ont besoin des spécialistes. Vous comprenez? Il faut qu'on soit beaucoup plus regardant sur beaucoup de choses. Comme le chef de l'État l'a dit, oui, on ne peut pas aussi supporter payer le prix de la paix sans s'endetter. On dit, oui, menace sécuritaire, oui, on va trouver l'argent pour pouvoir faire beaucoup de choses. Pendant que les États-Unis sont en train de réduire l'enveloppe au niveau de la BAD, au niveau de l'USAID, on ferme beaucoup de choses. Bon, maintenant, on va se tourner vers quel partenaire? Parce que quoi qu'on dise, les États ont besoin de se supporter, de se financer. Il y a beaucoup de besoins. Mais maintenant, au niveau de l'Afrique, tous les 54 pays africains, ils vont se tourner vers quels États. Si on n'arrive pas nous-mêmes d'abord à financer notre propre institution commune, qu'est l'Union africaine, nous-mêmes déjà n'arrivons pas à le faire. Bon, voilà le Togo qui a un petit souci, tant la main peut-être au Burkina ou bien, je ne sais pas, au Sénégal, pour dire, bon, on a besoin de 200 millions pour faire que ceci. Bon, est-ce que le Sénégal peut avancer les fonds? Ouais, c'est des problèmes sérieux. Si, par exemple, la Guinée-Bissau a un problème, demande au Togo de l'aider. Voilà, j'ai un petit problème, je veux construire un pont de 300 millions. Est-ce que tu peux m'envoyer les fonds, tu peux m'avancer les fonds? Est-ce qu'on a la capacité au niveau des États africains de faire ça? Je crois qu'à un moment donné, la Libye de Kadhafi, pas la Libye de maintenant, et le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso avaient servi à un moment donné avait fait de l'aide financière à des pays africains, les deux États, dans une certaine mesure l'Afrique du Sud. Mais actuellement, c'est compliqué. Vous ne trouverez ça nulle part.
D'accord. Oui, Magloire, c'est vrai qu'on est venu à Lomé. Vous avez vu des experts, hein, des économistes, des éminents économistes, alors qu'ils sont venus à Lomé pour discuter de cette question de la dette publique. Mais finalement, la question que le citoyen lambda se pose, c'est de savoir, après la rencontre de Lomé, qu'est-ce qui va changer dans notre vie?
Absolument, je crois quand même que c'est la question la plus importante aujourd'hui que l'on doit se poser, parce que il ne s'agit pas justement de réunir à Lomé les experts en la matière, parce que s'il ne s'agissait que de ça, on a déjà vu des situations pareilles. Vous vous rappelez, il y a quelques années, Lomé avait abrité une grande conférence, je dirais africaine, conférence dédiée justement à la sécurité maritime. Et après, il y a eu l'appel de Lomé avec toute une panoplie de mesures. Mais à ce jour, combien sont les États africains qui ont ratifié ne serait-ce que ce document? Peut-être deux ou trois. Mais ça voudra dire qu'en réalité, une chose est de rassembler les gens pour parler d'une thématique donnée, futile que ça concerne l'avenir de l'Afrique. Mais la réalité, c'est que, et après? Mais j'ai envie de remercier même l'administration Trump. Parce que ça a permis les premières décisions prises par l'administration Trump ont permis justement à l'Afrique de se réveiller de son apathie. Parce que pendant longtemps, on n'a fait que dormir, on n'a fait qu'appliquer la politique de la main tendue, alors qu'en réalité, tout le monde entier s'accorde à dire que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Mais voilà nous qui avons l'avenir du monde entre nos mains, qui tendons la main. Mais comment on peut comprendre cela? On l'a dit tantôt, le siège de l'Union africaine a été construit par la Chine. Le budget, on sait comment ça fonctionne avec, avec une forte collaboration avec l'Union européenne. Tout ça, c'est connu de tout le monde. Maintenant, à quand notre réveil? Moi, je pense que si aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, les États-Unis ont décidé de couper le pont un peu, de nous servir de robinet, et qu'on se met à nous réveiller, mais tant mieux. Mais la réalité, c'est que ce n'est que le début de ce long processus-là. Parce que moi, j'estime que quand vous voyez, par exemple, notre UN, nous avons titré « Construire un narratif plus positif ». Et ça, nous avons piqué le chef, enfin, pas le chef de l'État, mais le président du conseil. C'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Voilà. Il a dit.
Sinon, les enfants, pour le moment, ils disent qu'il faut l'assumer le plus président. Hein.
Donc, s'il te plaît.
On va revenir sur ça. Hein.
Et continue, s'il te plaît.
Voilà. En réalité, quand vous réfléchissez un peu sur l'expression, mais vous vous dites, est-ce qu'il y a un narratif négatif sur la dette? Je ne crois pas, parce que le paysan même qui est au village, il sait que quand vous contractez une dette, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais qu'est-ce que tu veux faire de la dette, ou qu'est-ce que tu fais de cette dette-là? Mais c'est ça le plus important. Et donc, si aujourd'hui, peut-être, M. Fonya Sibé ou alors les chefs d'État africains ont tendance à concevoir la dette, ou du moins à constater que les Africains développent un narratif négatif sur la dette, c'est parce qu'en réalité, on les informe que les États s'endettent, mais la réalité, c'est que les gens ne sentent pas l'odeur du développement autour d'eux. Et à partir d'un moment, ils peuvent s'arrêter et se questionner. Pourquoi cette dette-là? Et pourquoi nous ne développons pas? Et donc, j'estime que se réunir à Lomé, c'est bien. Mais le plus important, parce que c'est eux les politiques. C'est eux qui ont le gouvernail entre les mains. C'est eux de savoir où orienter, n'est-ce pas, le train du développement. Et donc, si on pense que peut-être les gens, certains Africains développent un narratif négatif sur la dette, c'est à eux maintenant de réinventer la roue. C'est à eux de changer d'approche, parce que vous et moi, on ne peut pas signer un acte au nom du Togo pour contracter une dette auprès de quoi? Avec une banque ou je ne sais pas quoi. C'est eux. Et donc, c'est bien de faire le constat. Mais je me dis, le reste les engage également. Il faut qu'ils fassent bien pour que les citoyens aient une bonne idée désormais de la dette.
D'accord. Oui, mais si aujourd'hui les experts et autres se réunissent à Lomé, ça veut dire qu'il y a une problématique. La problématique, bien sûr, de la gestion de cette dette. Jean-Le Grand Polérini, on a le droit alors de se poser cette question. C'est-à-dire, comment se fait-il que la gestion même de cette dette publique pose problème?
Moi, je dis qu'il faut se poser les vraies questions et les bonnes questions. Vous savez, Pascal, quand vous avez une plaie et que vous ne soignez pas cette plaie, vous caressez la plaie tous les jours. « Oh, la plaie, tu es là. » Est-ce que la plaie va finir? Non. Il faut cautériser la plaie. Hein. Il faut cautériser la plaie. Quand vous touchez la body, ce côté, c'est en train de finir. Tu chuchotes la plaie ne finira jamais. Tu auras beau dire aux gens, j'ai une plaie. Vous savez que j'ai une plaie. Depuis 10 ans, j'ai une plaie. Tous les jours, tu dis tu as une plaie. Mais tu ne poses pas les actions qu'il faut pour cautériser cette plaie. Mais écoutez, nous allons uniquement nous tourner les pouces. Quand on parle de la dette, c'est vrai qu'il y a des dettes qu'on appelle les dettes intelligentes. Quand toi-même, Pascal, tu vas au niveau d'une institution financière, tu dis que tu veux faire un prêt, on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu viens faire. Est-ce que quand la banque investit, elle aura un retour sur investissement, parce que c'est de l'argent qu'elle te passe, elle doit rentabiliser. Mais nous, nos États vont s'endetter constamment. Mais Magloire l'a dit, on a un développement qu'on ne voit pas. À un moment donné, il faut qu'on arrête de tourner en rond. Et que l'Afrique elle-même s'asseye et que se pose les bonnes questions. Moi, je crois qu'il y a les mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui ne permettent pas à l'Afrique de sortir de la dette. Parce que nous avons des dettes vieilles et longues qui continuent, et constamment vous avez des intérêts, et c'est les générations futures qui vont payer ces dettes. Mais pourquoi ne pas poser la vraie question de la gouvernance à fait de nos États? Mais quand on gouverne une nation de façon efficiente et productive, quand on a décaissé des sous pour faire un travail, évidemment ce travail, ces fonds doivent servir à ce pourquoi ils ont été décaissés. Mais quand on se rend compte que quelqu'un a mal géré des fonds, mais il y a ce qu'on appelle la redevabilité. Mais quand il n'y a pas de redevabilité, chaque temps on prend, on dit qu'on investit, mais on ne lutte pas contre la corruption.
Mais je suis désolé, on va continuer ce narratif pendant plusieurs années, mais on ne va pas sortir de l'endettement. Il faut qu'on prenne exemple sur les pays comme la Chine. Aujourd'hui, vous venez en Chine, on vous parle. Regardez ce que le Ghana fait à côté ici. Les ministres ont refusé de déclarer le bien. Ils ont été châtiés. Mais il faut qu'on en arrive là-bas et qu'on pose le débat sur les questions qui fâchent. Parce que tant qu'on ne va pas poser les questions qui fâchent, je crois que même notre développement, je crois, sera tétraplégique.
Oui, mais il l'a déjà mis.
La société.
On va parler justement, on va parler de la société.
Absolument.
Mais justement, mais il y a le temps qui
est.
On va revenir, bien sûr. On donne la parole, bien sûr, à nos auditeurs. Et on reviendra pour parler de la société. Il n'y a pas de souci. Les auditeurs peuvent nous appeler sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Et aussi sur notre numéro WhatsApp. Ils peuvent réagir sur le 90 45 78 c'est mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre nom c'est.
Allô.
Ah, décidément, il ne nous écoute pas. On va donner la parole à une autre personne. Allô?
Allô? Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Pélé.
Oui, c'est Pélé.
D'accord, Pélé, allez-y.
Ok. Je pense que la réunion à est terminée depuis hier.
Tout à fait.
Pour amener les dettes des Africains. On cherche le moyen. Je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen. Avoir un gouvernement qui peut se respecter. Un gouvernement là où il y a la transparence. La bonne gouvernance, je pense que ça, c'est la jeunesse. Si dans un pays, moi je vais dire que je répète ça, si dans un pays où une minorité s'accapare la richesse du pays, si là on fait la surfacturation, dans ce pays-là, dans l'habitation, on fait la surfacturation, comment on peut donner l'argent à ce pays. Comment ce pays-là peut aller se prêter de l'argent? Mais les donneurs, les bailleurs de fonds sont là, ils sont sur le terrain. Ils voient ce qui se passe. Mais je donne l'exemple du Bénin. Au Bénin, il y a la criette, il y a là. Tout ce qui est largement. Et je dis, si le Bénin demande 300 milliards, on va libérer. Mais si le pays demande 2 milliards, on ne peut pas libérer. C'est une question de la gouvernance. C'est très important. Je pense que les Africains perdent peu de temps pour ce genre de réunion, parce que je pense que pour cette réunion-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus arrivés à l'eau, donc ils sont arrivés à la promenade.
D'accord. Merci, Pélé. Autre auditeur. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Niamavo.
C'est Niamavo, chef.
Allez-y.
Mes condoléances, c'est M. Pascal?
Oui, bien, c'est bien moi.
Mes condoléances.
Merci beaucoup.
Oui, la dette. On est encore dedans. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on demande pardon au président, je ne sais pas, je voudrais me tromper, hein, au PC.
Vous voulez parler du président du Conseil?
Oui.
On lui
nous demande avec l'opposition pour passer la main. Tu vois qu'il n'arrive pas à sanctionner les cassistes. Il est faible devant eux. Il s'appelle fort, mais il ne va pas. Il est faible devant eux. Ouais, dans un pays où les gens ont installé leur propre commerce, qu'est-ce que ça ajoute à l'économie nationale? Quelle dette ça va payer à l'étranger? Et les gens, même les impôts, ils sont épargnés parfois. Comment ça peut payer? Si lui, il est venu au pouvoir, on a annulé les dettes, selon Nakader, et aujourd'hui, ça croit à l'exponentiel. Est-ce qu'avec lui, il croit qu'il peut parvenir? Non! Là, dans les autres pays où ça a tenu, vous avez cité la Côte d'Ivoire, quand quelqu'un vient, même de Bénin à côté, quand quelqu'un vient, il cherche à vous faire. Mieux que le prédécesseur. Mais quand on se tenait au pouvoir, c'est fini. On regarde à gauche, à droite, c'est les mêmes choses qu'on va faire. Soit et son équipe fera encore la même chose. C'est la dette qui va en idée. Il faut l'alternance. C'est tout.
D'accord, merci. Merci, M. Nyamavo, autre auditeur, 90-86-35-35.
Allô? Bonjour, grand frère Pascal, bonjour le plateau.
Bonjour, mon cher ami, c'est monsieur?
Benoît Dagoué.
Ah, monsieur Benoît Dagoué, allez-y.
Mes condoléances. Hein.
Merci beaucoup.
Bienvenue dans le club de, des orphelins de paix. Bon, en ce qui concerne la dette, pourquoi pas, comme nous sommes dans la 5e République, pourquoi pas le président du Conseil ne libère pas les prisonniers politiques, n'appelle pas, n'ouvre pas le bras aux Togolais qui sont à l'étranger, qui ont les moyens de venir investir dans le pays. Ce n'est pas l'unité d'une ville de recettes, c'est de voir les dépenses. Quelles sont les dépenses que nous faisons? Avoir le train avant d'avoir un TGV, il n'y a pas une bonne route, il y a seulement des moutons. Il faut que le chef de conseil tente le bras à l'opposition. Il faut que l'opposition aussi cesse de dire que c'est la tenance. Ce n'est pas seulement la tenance, hein. Ce n'est pas seulement d'échanger les choses. Il faut la place, il faut remplacer la bonne personne. Merci.
D'accord, merci beaucoup, Benoît, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Je compatis à toi, Sylvain.
Merci beaucoup, Sylvain.
Mais parce que nous sommes venus, on va passer un temps. Mais on grandit et on s'en va. L'invité est là, il est parti.
Oui, l'invité est toujours là, il vous écoute.
D'accord. Bon, moi j'ai peur. C'est comme ça, entre-temps, on nous a demandé de nous identifier. Ou bien identifier nos numéros. Et après, c'est Pegasus qui est à nos trousses. Il ne faut pas que ça soit comme Pegasus. Puisque même Pegasus, j'ai peur. Mais je souhaite que ça ne soit pas le cas. Merci.
D'accord, merci beaucoup Sylvain pour votre intervention. Sylvain, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Je lis cette réaction. Bonjour Canal FM, mes chers journalistes, ne vous fatiguez pas pour ces problèmes de dette. Nos dirigeants savent où sont passés ces montants, c'est qu'ils tentent de nous faire dormir. C'est Ibrahim qui nous écoute bien sûr et qui réagit bien sûr à cette dans cette émission. Nous allons Commandant, nous allons revenir en plateau hein, pour que vous répondiez justement à la question de Sylvain. Sylvain, lui, il a juste parlé alors du fait qu'il a une peur et c'est par rapport au fait qu'il y a de Pegasus entre-temps. Et, concrètement, est-ce que vous pouvez rassurer Sylvain de ce qu'il ne doit pas avoir peur?
Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il avait été élu... il avait dit, n'ayez pas peur. Léon XIV, c'est ça ou Léon...
Oui, Léon XIV.
Il a prôné la paix. Je dirais à nos concitoyens de ne pas avoir peur. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour renforcer l'inclusion socio-économique, pour pouvoir créer la paix. Effectivement, un système d'identification biométrique... il n'est pas neutre, c'est-à-dire que ça crée forcément la peur parce que il y a plusieurs interprétations qui peuvent naître en fait de tout ce qui est système informatique. Mais en même temps, nous devons vivre dans l'ère du temps. C'est pas la première fois qu'on collecte la biométrie dans les pays africains. Le passeport c'est biométrique. Lorsque je rentre dans un pays, je pose mes empreintes. Nous, aujourd'hui, nous estimons que ce que nous mettons en place en matière de transparence, de confiance, les piliers sont là. Et nous y travaillons. Moi-même, je vais m'enregistrer. Je me suis enregistré. Les gens de ma famille vont s'enregistrer. Je ne suis pas sûr que, comment on le dit en pays, Mina, Asok, Bezozo, Alozo, Asod, Edalomena, Nintervigno. Donc, on va y travailler. Et j'appelle, c'est un appel que je lance aussi aux professionnels des médias. J'ai écouté beaucoup de points. C'est des points que nous prenons et pour améliorer le processus. Et ça fait partie aussi de ce que nous appelons la redevabilité dans la République. Échanger, rendre compte de ce que nous faisons pour améliorer demain.
D'accord.
Parce que c'est demain qui compte.
D'accord, je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, mon commandant. Et je vous lis juste alors ce commentaire de cet auditeur, c'est Kossi Dagwe, qui dit « Bonjour Pascal, par rapport à l'identification, ce qui m'a marqué dans l'intervention de l'invité, c'est quand il dit « L'identification est soutenue par la Banque mondiale ». On comprend par là que c'est la Banque mondiale qui finance cette collecte d'identité. Donc, pour écrire les noms des citoyens, la Banque mondiale doit être au courant aussi. Notre agent, impôt, port, phosphate, clinker, marbre, fer, servent à quoi? C'est pour faire lien par rapport à ce sommet sur la dette. C'est une honte. C'est Kossi Dagwe, bien sûr. Mais je voudrais que nous parlions un peu de la sûreté, parce que c'est un sujet quand même qui est dans l'actualité. Et l'homme, c'est vrai, vous êtes revenu sur le sujet, un sujet justement alors de la sûreté. Et vous écrivez « Énergie, hausse des tarifs de l'électricité au Togo ». C'est vrai, aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui doit motiver la sûreté, cette institution, bien sûr, à augmenter les tarifs au Togo.
Il faut leur poser la question. Donc, bon, je crois quand même qu'ils auront le temps de venir répondre.
Et vous n'avez rien à dire?
Non, je pense qu'on n'a pas le temps. On n'aura pas...
Non, justement, c'est moi qui...
Non, on ne va pas évacuer ce sujet. Ce sujet est très, 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 très important. Je crois que les auditeurs méritent quand même le respect qu'on leur doit
débattre. On a encore 7 minutes, donc c'est pour cela que je voudrais qu'on...
Je donne à mes confrères.
Moi, je rejoins l'homme pour dire que le sujet est trop lourd pour l'évacuer en un instant de temps et... dire aux consommateurs togolais qui sont trop mous. C'est-à-dire que quand vous êtes mort, on comprend que vous êtes mort. Mais quand vous êtes vivant et que vous consommez, vous subissez, vous devez réagir. J'ai dit une fois ici qu'il faut, à un moment donné, on va retourner aux années 80, on était dans le noir. Hein, et on se plaisait comme ça. On dit aux gens d'enlever les poteaux et les câbles là, devant de leur maison. Là, on est tranquille. Tout le monde est tranquille, on n'a pas de lumière, quoi. La société n'a qu'à plier. Soit qu'on ait une autre société de fourniture d'énergie. Parce que tout le monde a l'impression qu'on nous impose des gens, qui nous arnaquent. Il y a des gens qui n'ont même pas un seul ventilateur. Ils n'ont pas de congélateur. Ils paient 10 000 francs à cause de quelques 6 lampes. C'est pas normal. On devait en principe réduire les tarifs du kilowattheure en lisant un ancien DGA de la société. C'est des gens qui nous volent, les anciens DG là, qui sont partis là. Ils ne paient jamais l'électricité. C'est à vie. Ils sont là. Oh, ils ont une dérogation de 6 mois. La société paie l'électricité. Maintenant, quand ils sont partis, ça fait pratiquement 15 ans, on continue pas à le payer l'électricité. Et c'est le peuple togolais, le pauvre togolais, qui continue pas à payer. Ce sujet, il faut qu'on en revienne.
Oui, donc,
et quand le monsieur qui avait. Et ce qui m'énerve en plus. Les gens ont voulu exprimer leur désapprobation, leur mécontentement et dénoncer cet état de fait. Moi, j'ai vu quelque part que la police est allée là-bas. Pour faire quoi? Il faut éviter la honte, là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas associer les... Il faut éviter que les généraux, nos commandants, les commissaires, là, associent les gens qu'on respecte à des conneries. Ça, c'est des conneries. Vous sont allés là-bas pour faire quoi? Le Togolais est martyrisé, le Togolais est piétiné. Ils veulent manifester, vous les étouffez. Pourquoi? Un bon matin... Ou un soir, quand le gaz est arrivé au niveau de la bouteille là, qu'est-ce que ça se passe?
Oui, ben merci Ambroise. Sur le sujet, Magloire.
Non, mais écoutez, c'est l'étonnement, c'est la surprise, comme chez tous les Togolais pratiquement. Hein, lorsque nous avons été informés de cette augmentation des tarifs au niveau de la société, mais je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que le Togolais a fait pour mériter tout ce supplice? Parce que c'est de ça qu'est la question. Dans ce pays, le salaire ne grandit jamais. Le SMIC, il est ce qu'il est. Mais, tout autour, il n'y a que des chars supplémentaires qui viennent. Et ce qui est bizarre, c'est que vous vous rendez compte que la mesure a été prise depuis mars dernier. On n'a rien dit à personne. C'est vrai qu'on va accuser le Togolais de ne pas être trop curieux, de ne pas lire les documents officiels. Mais la réalité, c'est qu'on a changé en catimini. On a soigneusement dissimulé ça dans le journal officiel. Et c'est quand après que les gens sont dans la pleine consommation de ça, qu'on ressort ça. Et on refuse également aux gens d'exprimer leur ras-le-bol. Mais ce n'est pas du tout bien. Au moins, quand vous tapez un enfant, acceptez quand même qu'il pleure. Mais la réalité, c'est que chez nous, ici au Togo, on te tape proprement, mais on t'interdit même de pleurer. Même ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais la réalité, c'est que pour faire plus sérieux, je voudrais humblement interpeller le chef de l'État à la matière. Parce qu'on nous a dit que l'avènement de la 5e République garantit quoi ? L'épanouissement, le développement et tout ça. Mais voyez ces premières mesures. C'est vrai que ce n'est pas une mesure politique. Mais le chef de l'État doit demander aux gens de la société, mais pourquoi vous faites ça? Pour qu'ils s'expliquent. Parce que ne rien dire par rapport à ça, parce qu'en amont déjà, il y a la vie chère, avec tout ce que nous connaissons. On n'est pas encore sorti de ça là, et voilà encore d'autres mesures qui viennent donner, je ne sais pas, qui viennent assommer de plus les pauvres populations togolaises. J'ai envie de dire, on ne mérite pas ça. Parce que à la base, nous sommes tous consommateurs. Moi, Davadi, on parlait tantôt de la dette. En réalité, la dette, ce n'est pas un problème. Mais qu'il y ait des charges supplémentaires dans nos consommations quotidiennes aussi, ce n'est pas un problème en réalité. Si et seulement si en amont, on nous a permis d'avoir la bourse nécessaire pour tout supporter. Mais voilà la bourse qui n'existe même pas. Le panier de la ménagère, il est toujours vide. Pas même à moitié plein. Toujours vide. Mais autour, il n'y a que des charges. On va trouver ces moyens-là où pour supporter ces charges. C'est de ça qu'il est question.
D'accord. Et c'est là, ça qu'il est question. Merci, ma gloire. Oui, Jean Le Grand pour le RINI. Comment vous analysez alors cette hausse ou cette augmentation du tarif au niveau de la société?
Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut expliquer pourquoi on a augmenté? Nous tous, on pose la question. Parce que c'est une douche froide qu'on nous a servie hier. Vers 14h, tout le monde était ahuri quand nous avons appris l'information. C'est vrai que le temps ne permettra pas de décortiquer de fond en comble les tenants et les aboutissants de cette structure, parfois, qui aujourd'hui fait la déception des Togolais, il faut le dire. Parce que j'ai dit que la croix des Togolais devient vraiment très lourde à porter, très lourde à porter, avec déjà les problèmes que nous avons sur le plan social, le panier de la ménagère. Et tout ce qui va avec, on s'attendait vraiment à ce que, avec cette 5e République, on nous a promis beaucoup de choses, meilleure gouvernance. Et je me rappelle, quelqu'un disait, ben, si on n'aura plus de coupures d'électricité, c'est tant mieux. Si le panier de la ménagère va s'améliorer, c'est tant mieux. Mais malheureusement, quelqu'un l'a dit aujourd'hui, on a comme l'impression qu'entre la 4e et la 5e République, c'est les chiffres qui ont changé. Et les mêmes choses se poursuivent. Je crois véritablement que Il y a matière à revoir. Et c'est vraiment compliqué. Compliqué pour les Togolais. J'imagine aujourd'hui, pour le Togolais le plus bas qui n'arrive pas à avoir ne serait-ce que 2 repas par jour, comprendre qu'il va encore payer plus cher l'électricité, le gaz qui coûte déjà les yeux de la tête. Ma foi, je ne sais pas à quel sein nous allons vouer dans ce pays.
D'accord.
Et je crois que le chef de l'État, pas le chef d'État, le président du Conseil des ministres. Parce que, c'est pas un conseil de poulet ni de mouton, c'est le conseil des ministres.
Pour moi, c'est le conseil
de quoi
président du conseil.
Le conseil de quoi? Que non. Conseil de la République. Ok.
Puisque la position publique, là, ça pose un sérieux problème. Hein.
D'accord. Donc, le président du Conseil de la République, comme les gens l'ont dit, a fort à faire. Et on espère qu'il va réagir.
Merci beaucoup, cher confrère. Certainement, nous allons revenir sur le sujet dans nos prochaines émissions au niveau alors du Club de la Presse ici. Merci, Jean Le Grand Polerini, d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Canal D. Merci, l'homme Kossi Atisobe, d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune et Ambroise Pondio. Merci à vous d'être passé aussi dans cette émission. Directeur de publication du journal Les Guadiens. Merci d'être passé. Merci à, au DP, au nouveau DP, j'allais dire, de Flambeau des Démocrates, puisque c'est depuis la semaine passée que vous êtes devenu le directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates. Merci et félicitations, Magloire.
Merci.
Et merci d'être passé aussi dans cette émission. Merci à, au commandant Devo, s'il était, d'être passé aussi dans cette émission, mon commandant. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale d'identification. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez appelé, vous qui nous avez aussi bien sûr vous qui avez réagi hein, à travers nos numéros, notre numéro WhatsApp. Merci à vous pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dacoutier a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.
Point 5. Canal FM.